de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Monde aujourd'hui, édition du 29 septembre 2014, en direct du studio 13 à Washington, chez Robin Dorcil et Nathalie Barge. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Au sommaire ce soir, Charles Blé Goudé, ancien leader des jeunes patriotes en Côte d'Ivoire, comparaît devant la Cour pénale internationale.
Au Burundi, libération conditionnelle de Pierre Claver Mbonimpa, défenseur des droits humains. Une réaction de sa fille.
Nous étions inquiets parce qu'auparavant, il était vraiment très très malade. Maintenant, sa santé, ça commence à évoluer. On est vraiment très contents.
Prestation de serment du nouveau président afghan, Ashraf Ghani appelle à la négociation avec les talibans.
Nzanga Mobutu, fils de l'ancien président congolais Mobutu Sese Seko, invité de notre magazine ce soir.
Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission, mais d'abord, le journal.
À la haie, début de l'audience de confirmation des charges contre Charles Blé Goudé. La Cour pénale internationale soupçonne l'Ivoirien de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Le point avec Nicolas Pinault.
Avec son crâne rasé et ses lunettes noires, Charles Blé Goudé a pris des notes en écoutant le procureur. Fatou Bensouda a insisté, l'ancien leader des jeunes patriotes est responsable de certains des pires crimes commis en Côte d'Ivoire après l'élection présidentielle de novembre 2010. Selon le procureur de la CPI, les hommes de Blé Goudé, considérés comme un proche de l'ex-président Laurent Gbagbo, ont tué, violé, brûlé vif et persécuté des centaines de personnes. Charles Blé Goudé devrait formellement être accusé en tant que co-auteur indirect de 4 chefs d'inculpation de crimes contre l'humanité. M. Blé Goudé avait été arrêté en janvier 2013 au Ghana, puis extradé vers la Côte d'Ivoire. Il avait finalement été transféré en mars dernier vers La Haye. À l'issue de l'audience de confirmation des charges qui va durer jusqu'à jeudi, les juges doivent décider si le dossier de l'accusation est assez solide pour justifier un procès. Une décision sera ensuite rendue dans les 60 jours.
Le tribunal de grande instance de Bujumbura vient d'ordonner la libération provisoire de Pierre Claver Mbonimpa, un grand défenseur des droits de l'homme au Burundi. Il avait été condamné pour atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État, pour avoir révélé des informations selon lesquelles des jeunes en tenue militaire s'entraînaient au sud Kivu, en République démocratique du Congo. Reportage de Christophe Nkurunziza.
La justice burundaise a autorisé ce lundi matin la libération conditionnelle du président de l'Association pour la promotion des droits humains et des prisonnières PRODH en sigle, Pierre Claver Mbonimpa. Sa fille Amandine Nassasagare ne cache pas sa joie.
Nous sommes vraiment très heureux. Nous étions inquiets parce qu'auparavant, il était vraiment très très malade. Maintenant, sa santé, ça commence à évoluer. On est vraiment très contents.
Pour les avocats de la défense, la joie est immense. Maître Antoine Zovandora affirme que tout le monde a sa part de responsabilité dans cette libération. Le Parlement européen et le président américain Barack Obama avaient dernièrement demandé aux autorités burundaises de le libérer. Pierre Claver Mbonimpa devra toutefois se présenter à la justice burundaise si nécessaire et ne pas partir pour un pays étranger. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, pour La Voix de l'Amérique.
La mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola ouvre son quartier général au Ghana, d'où elle coordonnera la réponse à l'épidémie qui continue de sévir en Afrique de l'Ouest. Des précisions avec Jacques Aristide.
Le directeur de la mission, Anthony Banbury, et son équipe étaient attendus ce lundi à Accra, la capitale du Ghana. La mission onusienne cherchera à identifier les besoins les plus urgents pour répondre à la crise, surtout dans les 3 pays les plus durement touchés par le virus Ebola, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Elle s'assurera ensuite que l'aide disponible, de l'équipement médical aux travailleurs de la santé, sert à combler ces besoins. Pendant ce temps, les 3 000 soldats américains promis par le président Barack Obama ont commencé à être déployés sur le terrain. C'est le chef des troupes américaines en Afrique, AFRICOM, le major général Daryl Williams, qui dirige les opérations depuis un nouveau quartier général établi à Monrovia, au Libéria. La mission consiste notamment à renforcer la logistique, construire des centres de traitement et former des agents médicaux jusqu'à 500 par semaine. Une base de transit pour l'aide humanitaire a également été mise sur pied à Dakar, au Sénégal.
Des militaires, plutôt 2 militaires algériens, dont un officier, ont été tués hier dans la région de Sidi Bel Abbès, à l'ouest d'Alger. L'attaque est attribuée aux islamistes. Idriss Fall.
Selon les médias algériens, les deux militaires ont été tués alors qu'ils inspectaient une centrale électrique à Tella, 80 km au sud de Sidi Bel Abbès. Des hommes armés dont le nom n'a pas été précisé ont utilisé des armes automatiques pour mener leur attaque. En juillet, trois militaires et quatre gardes communaux avaient été tués dans l'explosion d'une bombe dans cette même région. L'armée algérienne mène aussi des opérations en Kabylie, dans l'est du pays, pour tenter de retrouver le corps de l'otage français Hervé Gourdel. Il a été décapité par des extrémistes réclamant de l'État islamique. Ce nouveau groupe est en dissidence avec Al-Qaïda au Maghreb islamique, toujours présent dans la bande sahélo-sahélienne. Le ministère algérien de la Défense a promis de lutter contre les djihadistes jusqu'à leur élimination totale et annonce qu'au moins 71 islamistes armés ont été éliminés depuis le début de l'année.
Le Premier ministre malien Moussa Mara sera à la tête d'une délégation demain à Paris pour la quatrième réunion de suivi de la conférence de Bruxelles. La rencontre visera à faire le point sur les promesses d'aide faites par des bailleurs de fonds lors de la conférence de mai 2013 en Belgique.
Un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre du président du Parlement nigérien, Mahamadou, qui s'est enfui en août dernier dans le cadre d'une enquête sur un trafic transfrontalier de bébés. Ses avocats, Maître Souley Oumarou et Maître Mossi Boubacar, ont précisé qu'il ne s'agissait de mandat d'arrêt national, plutôt que de mandat d'arrêt national qui a été émis vendredi dans cette affaire de trafic présumé de bébés. 17 personnes, dont une de ses épouses, ont été écrouées, dont le ministre de l'Agriculture, Abdoulabo. M. Amadou affirme que ces poursuites ont pour but de l'écarter de la présidentielle de 2016.
En visite à Washington, le chef du parti tunisien Ennahda, Rached Ghannouchi, a appelé ce lundi les États-Unis à soutenir la démocratie en Tunisie. Des élections législatives sont prévues le 26 octobre avant le scrutin présidentiel du 23 novembre. Le président tunisien Moncef Marzouki, proche d'Ennahda, est candidat à sa propre réélection en novembre.
À Khartoum, un diplomate espagnol a été retrouvé mort, poignardé à son domicile. Le diplomate de 61 ans dirigeait la section des visas de l'ambassade d'Espagne et travaillait dans le pays depuis 3 ans. Une enquête est en cours.
Le tribunal pénal international pour le Rwanda a confirmé aujourd'hui en appel des peines de prison à perpétuité contre des dirigeants du parti au pouvoir au Rwanda lors du génocide de 1994. Mathieu Ngirumpatse, ex-président du MRND de l'ancien président Juvénal Habyarimana, et Edouard Karemera, ex-vice-président du parti, avaient été condamnés pour génocide en 2011.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les combats se sont poursuivis aujourd'hui entre les militants de l'État islamique et des milices locales kurdes dans le nord de la Syrie. La Turquie a renforcé sa présence militaire le long de la frontière. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé en Grande-Bretagne, les frappes aériennes de la coalition ont atteint les positions de l'État islamique dans au moins 2 provinces syriennes, Alep et Raqqa, la nuit dernière.
En Ukraine, de nouveaux affrontements ont eu lieu près de la ville de Donetsk ce lundi entre les forces gouvernementales et les séparatistes pro-russes. Le bilan officiel est de 12 morts au moins, malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis le début du mois. Selon un porte-parole militaire, 7 soldats ukrainiens sont morts près de l'aéroport de Donetsk, portant à 9 le nombre de victimes dans les rangs de l'armée ces dernières 24 heures.
Les troupes américaines vont rester en Afghanistan au-delà de 2014. La signature d'un accord est prévue demain mardi, selon les officiels américains, avec le nouveau président afghan Ashraf Ghani, qui a été investi ce lundi. Jean-Roger Bian.
Le nouvel accord sur la sécurité va permettre à au moins 10 000 soldats américains de rester en Afghanistan à la fin de la mission internationale de combat le 31 décembre prochain. Cela dit, Ashraf Ghani a officiellement remplacé Hamid Karzai à la tête du pays. L'investiture a eu lieu au palais présidentiel à Kaboul, sous haute sécurité, en présence de délégués venus du monde entier. Abdullah Abdullah, adversaire de M. Ghani lors de l'élection présidentielle, a aussi prêté serment en qualité de chef de l'exécutif, résultat d'un accord de partage du pouvoir conclu après des mois de crise post-électorale. Le tout nouveau président a invité les groupes de l'opposition, y compris les talibans, à la table des négociations pour discuter de l'avenir du pays. Son intronisation a été accueillie par une nouvelle attaque. 4 personnes sont mortes à la suite d'un attentat suicide près de l'aéroport de Kaboul qui a été aussitôt revendiqué par les talibans.
Manifestation monstre à Hong Kong ce lundi. Un défi au régime de Pékin qui tente de mettre fin aux protestations pro-démocratie. Les détails avec Camille Gros-Didier.
Le gouvernement a appelé lundi les dizaines de milliers de manifestants à se retirer pour permettre la reprise des transports publics. Mais en même temps, il a annoncé le retrait de la police anti-émeute. Un appel ignoré par la foule qui bloquait toujours le centre-ville en fin de journée. Dans la nuit de dimanche à lundi, la police anti-émeute a usé de gaz lacrymogène et matraques pour tenter de disperser les manifestants. Hier, les protestataires ont entouré le principal bâtiment du gouvernement après que le chef exécutif de la ville eut annoncé que le gouvernement va lancer un nouveau cycle de négociations sur la réforme électorale. Les manifestants font partie d'un mouvement de désobéissance civile qui souhaite que Beijing relâche son emprise sur l'ancienne colonie britannique.
Visite aux États-Unis du Premier ministre indien Narendra Modi. Il doit dîner ce soir avec le président Barack Obama à la Maison-Blanche. Ils discuteront notamment d'économie, Washington étant préoccupé par le manque d'ouverture de New Delhi aux investissements étrangers. Les questions de sécurité régionale seront également au menu. Voilà pour le journal. Il est 18h41 en temps universel, 14h41 ici à Washington. Chez Robin Dorcil et Nathalie Barge en votre compagnie. Restez branchés pour quelques-uns des dossiers du jour. Nouvelle manifestation ce week-end dans plusieurs villes congolaises pour protester contre l'intention prêtée au président Joseph Kabila de modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir, Nathalie.
Et oui, à la tribune de l'ONU, la semaine dernière, M. Kabila avait affirmé que les élections dans son pays se tiendraient conformément au calendrier prévu. Les élections locales en 2015, puis les sénatoriales et provinciales avant la présidentielle en novembre 2016. L'opposition congolaise ira-t-elle à nouveau en ordre dispersé à cette élection ? Nicolas Pineau a posé la question à Nzanga Mobutu, dirigeant de l'Union des démocrates mobutistes.
Je pense que les diverses discussions que nous avons eues ensemble avec Vital Kamerhe, avec Moussa Nyamouissi, Félix Tshisekedi et les nombreux autres alliés, et ainsi que la société civile, puisque vous savez qu'elle est très impliquée, je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. C'est un front commun de l'opposition. Moi, je l'appelle d'ailleurs l'opposition responsable. C'est parce qu'en 2011, ça a raté, parce que malheureusement, nous nous sommes retrouvés d'ailleurs à un moment donné ici à Washington, et malheureusement, nous ne nous sommes pas vus. Je me souviens que nous avions discuté avec Vital Kamerhe à l'époque, mais bien entendu, je crois que cette fois-ci, avec l'UDPS, nous allons discuter, nous mettre à table, et j'étais très content d'ailleurs de voir Félix Tshisekedi annoncer d'ailleurs il y a quelques semaines qu'aucun parti ne pouvait gagner seul. Donc c'était, je crois, un message positif pour l'ensemble de l'opposition, et ça cadre assez bien avec les discussions que nous avons.
Le président Joseph Kabila n'a pas encore dévoilé ses intentions pour 2016. Évidemment, toute l'opposition lui prête l'intention de modifier la Constitution. C'est aussi votre avis ?
C'est également mon avis. Et je ne comprends même pas d'ailleurs tout le sens de ce débat. La Constitution est très claire. L'article 220 qui est souvent évoqué, il stipule notamment que le président de la République ne peut exercer que deux mandats. Donc je ne vois même pas pourquoi ce débat... a lieu. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a tout ce tintamarre autour de cette question. Et bien entendu, nous allons marcher, nous allons continuer à faire pression pour que cet article, ou comme d'ailleurs tous les autres articles, soient respectés.
Est-ce que Mobutu, c'est un avantage ou un inconvénient lorsqu'on fait de la politique en RDC ?
On m'a posé la question en 2005, après l'exil, donc avant que je ne rentre à Kinshasa. Je suis rentré, j'ai eu le temps de créer mon parti, de m'organiser, et de me structurer. Et puis, je pense que les résultats qui ont été les miens donc en 2006, je le dis tout à fait humblement, ont démontré que c'est un nom qui est un nom rassembleur, puisqu'en fait ça renvoie quand même à cette idée très forte de l'homme de l'unité nationale, de l'homme qui a pu préserver les frontières du Congo, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Le nom de notre parti, c'est Union des démocrates mobutistes. Alors, est-ce qu'on peut être mobutiste et démocrate ? Je dis, mais tout à fait, parfaitement. Puisque ce sont les grandes idées qu'il a défendues, ce sont ces grandes idées-là que nous voulons défendre. Je ne suis pas moi comptable de la gestion du régime Mobutu.
C'était l'opposant Nzanga Mobutu, ici, dans les studios de La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, en RDC, sur Raga FM.
Publication ce lundi de l'indice de gouvernance annuel des pays africains par la Fondation Mo Ibrahim. Si certains pays ont progressé, comme la Guinée, le Niger ou le Zimbabwe, le bilan reste mitigé, car la Fondation note un ralentissement dans les pays qui, en général, se sont placés en tête, comme l'île Maurice, le Cap-Vert ou le Botswana. Pour eux, ces pays doivent rester vigilants. Nathalie De La Palme, directeur exécutif de la Fondation Mo Ibrahim, détaille les grandes tendances de l'indice 2014. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Nous émettons en direct de Washington.
Les principaux résultats montrent que, au niveau général sur l'ensemble du continent, le niveau global de gouvernance continue à progresser entre 2009 et 2013, donc au cours des 5 dernières années. Ce qu'on constate, si on regarde un peu plus en détail les résultats, c'est qu'au cours des 10 dernières années, les principaux moteurs de cette tendance ont changé. D'abord, au niveau des pays, ce qui est intéressant, c'est que les pays qui ont progressé le plus rapidement, qui ont vraiment accompli un parcours tout à fait remarquable au cours des 5 dernières années, sont des pays qui, jusqu'à présent, se situaient et se situent encore d'ailleurs dans la deuxième partie du classement, notamment la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Niger et le Zimbabwe. Ces 4 pays affichent vraiment une progression tout à fait remarquable qui est essentiellement tirée par les indicateurs relatifs à la participation et aux droits de l'homme.
Est-ce qu'il y a des résultats qui vous ont surpris parmi ces pays ?
Non, enfin qui ne nous ont pas surpris, qui nous paraissent encourageants. C'est vrai que voir des pays qui étaient en situation difficile comme la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Niger, la Côte d'Ivoire et la Guinée qui sortent toutes les deux d'une période un peu difficile, et le Niger qui n'a pas une situation de départ facile, la capacité de ces pays, dans le fond, à progresser rapidement et à progresser de manière équilibrée est tout à fait encourageante.
Et quels sont les mauvais élèves pour vous cette année ?
En queue de peloton, si on prend les 5 derniers, si on va du plus mauvais au moins mauvais, si je puis dire, mais enfin on reste très bas, c'est la Somalie, la République centrafricaine, l'Érythrée, le Tchad et la Guinée-Bissau, la République démocratique du Congo arrivant ensuite.
Et comment vous avez calculé cet index ?
C'est un index composite qui repose sur la consolidation de 94 indicateurs différents qui proviennent de plus d'une trentaine de sources, qui sont des sources soit provenant d'institutions multilatérales, d'institutions régionales ou d'instituts travaillant sur des domaines très précis, comme par exemple la question des réfugiés, et que nous consolidons. En fait, ce que nous faisons, c'est une sorte de tableau de bord, dans le fond, des résultats de la gouvernance considérés comme un panier large de biens et services publics, dont, dans le fond, chaque citoyen vivant au XXIe siècle est en droit d'attendre de son gouvernement.
Nathalie De La Palme, directeur exécutif de la Fondation Mo Ibrahim, au micro de Claire Morin-Gibourg.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, le bilan mitigé de la gouvernance en Afrique, dressé par la Fondation Mo Ibrahim, alors que des voix s'élèvent en RDC, au Burundi, au Congo-Brazzaville ou encore au Burkina Faso, contre toute modification de la Constitution destinée à permettre à un chef d'État de se maintenir au pouvoir. Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h10 sur la VOA.
Hormis les questions relatives à Ebola et au terrorisme islamiste, l'Assemblée générale de l'ONU traite d'autres priorités, notamment l'éducation de la jeune fille et l'alphabétisation des femmes, n'est-ce pas, Chérubin ?
Oui, plusieurs pays d'Afrique sont parvenus à scolariser autant de filles que de garçons au niveau de l'école primaire, mais le défi reste toujours très grand pour aider les jeunes filles à continuer leurs études jusqu'au secondaire et à l'université. Le Togo a fourni des efforts en ce sens pour y parvenir. C'est ce qu'a dit à la Voix de l'Amérique, d'ailleurs, la ministre de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation, Dédé Aouefa Ekwe, que vous avez jointe, Nathalie, à New York.
Nous avons déjà pu enregistrer une augmentation du taux de scolarisation des filles et réduire l'écart au niveau du primaire, puisqu'aujourd'hui, nous en sommes aujourd'hui à plus de 9 filles pour 10 garçons à l'école primaire. Mais il nous reste un défi, puisque nous savons qu'au niveau du secondaire et de l'université, nous avons encore un grand gap. Au niveau du secondaire, on a littéralement 4 filles pour 10 garçons. Nous pensons qu'il faut vite renverser cette tendance. Et donc, un des premiers défis, c'est comment faire pour que nous dépassions le cap du primaire et pour que la majorité des filles puissent finir le secondaire et s'aventurer vers l'université. Le deuxième défi par rapport à l'éducation des filles, pour nous évidemment, c'est de nous assurer que le génie scientifique et technique des filles soit totalement capitalisé, puisqu'aujourd'hui, dans nos filières universitaires liées à la science et la technologie, nous avons à peine un tiers des filles qui sont dans ces universités ou ces écoles scientifiques et techniques. Et donc, c'est un défi à relever. C'est pour ça que cette année, nous avons beaucoup mis l'accent sur la sensibilisation et l'accompagnement des filles dans les domaines scientifiques et technologiques. Et donc, nous pensons qu'il nous faut regarder encore de plus près tous les obstacles qui empêchent la fille de développer ses capacités intellectuelles. Nous avons des programmes.
Alors, et pour parler des femmes plus âgées, par exemple, est-ce que vous avez des programmes en particulier, des programmes de formation, d'alphabétisation, etc.?
Oui, écoutez, par rapport à l'alphabétisation, c'est aussi un défi pour nous. Nous avons eu des progrès aussi dans ce domaine. Mais nous ne voulons pas nous asseoir sur nos lauriers parce que nous savons que pendant qu'il y a un homme sur quatre analphabètes dans notre pays, il y a deux femmes sur quatre qui sont analphabètes. Donc nous avons un défi, plus de 50% des femmes sont analphabètes. Alors nous avons des programmes pour alphabétiser les femmes. Ça se fait avec un très bon partenariat avec les organisations de la société civile. Et donc c'est quelque chose que nous sommes en train de faire, mais pour lequel nous avons besoin de plus de financement, parce que évidemment le travail est énorme. Les femmes sont très motivées à apprendre, elles comprennent l'importance de l'alphabétisation pour elles. Mais ma foi, les financements ne sont pas faciles à mobiliser. Ce n'est pas aussi facile que mobiliser des financements pour l'école primaire, pour les enfants. Donc c'est un défi que nous avons, une grande demande, oui, des femmes sensibilisées, des organisations de la société civile prêtes à travailler, mais des financements limités.
La ministre de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation du Togo, Dédé Awefa Ekwe.
La Voix de l'Amérique au Togo, sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre les maladies coronariennes. Selon des experts d'Afrique centrale, 80% des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ne le savent pas et beaucoup meurent pendant le traitement chez des guérisseurs traditionnels. Voici un reportage de Moki Edwin Kinzeka présenté par Michel Joseph.
À Yaoundé, la capitale camerounaise, 10 patients attendent chez Fukugang Eric, un guérisseur traditionnel qui se dit spécialiste des maladies cardiaques.
Quand quelqu'un vient nous dire qu'il est fatigué, qu'il ne peut pas faire des mouvements forts ou du sport, qu'il a parfois des douleurs dans le cou et parfois une paralysie qui pourrait l'aliter, nous avons certaines plantes médicinales que nous donnons.
Parmi les patients, Nji Mary, une dame de 62 ans qui souffre d'hypertension. Elle dit avoir été guérie par le tradipraticien après plusieurs visites sans succès à l'hôpital. De nombreuses maladies cardiaques traditionnellement associées aux pays développés sont en augmentation en Afrique, souligne le docteur Eloge Yangnini de la fondation camerounaise Cœur.
On a établi que dans le monde, il y a plus d'un milliard de personnes qui souffrent de pathologies cardiovasculaires. Et chaque année, il y a environ 30 millions de nouveaux cas notifiés. Mais par contre, en Afrique, la situation semble être encore plus alarmante. On dénombre près de 50% des sujets adultes ayant des pathologies cardiovasculaires.
Le docteur Emmanuel Tajou de la Société camerounaise de cardiologie relève de son côté que l'augmentation des maladies cardiaques est principalement due au mode de vie urbain en Afrique subsaharienne.
Nous avons maintenant des voitures, nous ne pratiquons plus de sport, nous fumons, nous buvons, sans compter le stress. Autant de facteurs qui contribuent à la hausse des maladies cardiovasculaires.
Pour le docteur Yangnini, les personnes les plus menacées sont les pauvres.
N'attendez pas parce que nous avons l'habitude de trop attendre. Il faut aller à l'hôpital. Nous avons cette formation. La bonne démarche, c'est de rencontrer un médecin le plus vite possible. Le plus important, c'est de consulter un médecin.
D'où le thème retenu pour la journée mondiale, c'est-à-dire créer un environnement sain pour le cœur. Parmi les mesures préconisées par l'Organisation mondiale de la santé, la réduction de 35% de la consommation de sel d'ici 2025. Les maladies cardiovasculaires représentent environ 10% des décès en Afrique et sont la principale cause de décès chez les personnes de plus de 45 ans.
Place au sport avec Nicolas Pino. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Retour en triomphe ce soir à Kinshasa pour l'ASV Club.
Et oui, les Dauphins Noirs qui rentrent au pays après leur qualification pour la finale de la Ligue des Champions. L'ASV Club est à nouveau allé battre samedi le CS Sfaxien, cette fois en Tunisie, 2-1.
Et la finale 100% congolaise n'aura cependant pas lieu au grand désarroi des Luchois.
Et oui, le tout-puissant Mazembe s'est fait éliminer hier à domicile par l'entente sportive de Sétif malgré une victoire 3-2 insuffisante. Cependant, après la défaite en Algérie, 2-1. Kidiaba, le gardien des Congolais, à la dérive sur les deux centres qui ont amené les buts de Sétif. A noter que ce sera une finale inédite entre l'entente sportive de Sétif et l'AS Vita Club. Il s'agira d'une finale de Ligue des Champions. Mais les deux clubs ont un point commun, avoir déjà goûté au sacre continental. Les Congolais, c'était il y a longtemps, en 73 contre Asante Kotoko. Et les Algériens, c'était en 1988 contre Ouniaoumou National.
L'autre coupe continentale a presque rendu son verdict. Avec la rencontre, plutôt avec là encore, une finale inédite, il faut le dire, Nicolas.
Et oui, première finale dans cette épreuve pour le COE San Pedro de Rigo Gervais au terme d'un match nul et vierge 0-0 à Dolisie. Le club ivoirien a su préserver son avantage du match aller 1-0. La finale ne sera pas 100% francophone puisque les cotonculteurs de Garoua se sont inclinés 2-1 en Égypte sur la pelouse d'Al Ahly.
Il n'y avait pas de photo dimanche après-midi au stade Chedli Zouiten de Tunis.
Entre les sélections juniors tunisiennes et maliennes en match retour du dernier tour éliminatoire de la CAN Niger 2015. Déjà vainqueur 2-0 il y a deux semaines à Bamako, les Aiglons du Mali ont confirmé leur ascendant en s'imposant facilement 3-1. Les autres qualifiés, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Zambie, la Guinée, l'Afrique du Sud et le Ghana.
Merci Nicolas Pino que l'on retrouve tout à l'heure dans Sporama.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington à présent. Bah, la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Nathalie, salut Gabi. Nicolas Pino sera sûrement content pour cette nouvelle parce que l'ancien footballeur libérien du PSG, Georges Weah, a enregistré une chanson adressée à ses concitoyens pour les exhorter à prendre conscience de la gravité de l'épidémie de fièvre Ebola. Écoutons Sydney et Georges Weah. Africa must stand and fight together, fight Ebola.
Africa, Mama Africa, we must all rise, sing together to fight Ebola.
We must all arise, let's come together to fight Ebola.
We are Project Ebola.
We live in a world, my people, full of uncertainties, no security, everything be possible, it could be.
Levons-nous tous ensemble pour combattre Ebola. Ebola est bien là, c'est en ces termes que Georges Weah exhorte ses compatriotes, voire tous les Africains, à prendre au sérieux l'épidémie qui touche de plein fouet son pays, le Libéria.
Oui, Nathalie, l'ancien footballeur espère que sa chanson aidera à stopper l'expansion du virus qui a déjà tué environ 3000 personnes au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée et dans une moindre mesure au Nigeria.
Et oui, et c'est un hommage également cette chanson au personnel soignant parce qu'il y a plusieurs médecins
exactement.
Qui sont décédés, des infirmières, etc., hormis les civils.
Exactement, et les dangers continuent comme on le sait et je crois que quand il y a des stars qui se mettent vraiment à prêcher ce message, ça aide toujours.
Il y en a quelques-unes, il y en a d'autres également qui ont fait des chansons de prévention contre
bien
l'Ebola.
Bien sûr, on parle de Aïcha Kone,
l'ivoirienne, ouais.
Exactement, et les jeunes guinéens aussi, le collectif des artistes guinéens. Super, super.
Ouais, c'est la mobilisation
des
artistes et c'est très bien.
Ouais, exactement. Mm-hmm. Merci Nathalie.
Et voilà, merci beaucoup Roger pour cette page musicale. On vous retrouve tout à l'heure le RM Show à 20h, temps universel. Merci beaucoup.
Yes,
c'est la fin de cette édition qui a été mise en onde par Issiaka Ba et Lionel Gaïma, Wagner Robert à la technique, à la présentation, chez Robin Dorcy.
Et Nathalie Barge.
Bonsoir.
Oh,
through contact with needles and other infected objects of persons, and also contact with infected animals, possibly by eating infected meat. Symptoms of Ebola include fever, headache, joints and muscle pain, followed by vomiting and severe.